Chapitre 3. Compromis.
C'est parfait, à mon avis.
Kefria ne put dissimuler sa satisfaction.
C'est ravissant,
renchérit Irak.
Mais tournez-vous encore une fois, un peu plus vite pour que les jupes se soulèvent. Je veux m'assurer que l'ourlet est égal partout avant de le coudre pour de bon.
Malta leva les bras avec précaution pour éviter les épingles et pivota sur ses pieds gainés de bas. Tout autour, des bouts de tissu jonchaient le sol.
De vieilles robes avaient été dépouillées de leurs dentelles.
Les laits de couleur vive appliqués sur les manches somptueuses provenaient d'autres jupes.
« Ah ! Comme un lys qui flotte sur l'eau ridée par une brise d'été, vous ne sauriez être plus belle !»
s'exclama Rack, triomphante.
« Sauf quand elle sourit !»
fit remarquer Selden à mi-voix. Il était assis par terre dans un coin de la pièce, des jetons étalés devant lui. Malta l'avait observé. Il avait construit des châteaux au lieu de travailler à ses problèmes. Elle était trop abattue pour signaler à sa mère la paresse de son petit frère.
« Selden a raison, Malta. Rien ne vaut un sourire pour embellir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu regrettes toujours que ce ne soit pas une couturière à la mode qui t'ait confectionné cette robe ?»«
Bien sûr que oui.
Comment pouvait-elle même poser la question ? Pendant des années, elles avaient parlé avec Dilo de leur premier bal d'été comme jeunes débutantes. Elles avaient dessiné des tenues recherchées, discuté ornements, couturières, escarpins. Jamais les yeux de Terrylville ne les détailleraient avec plus d'attention que ce soir-là. Tout le monde allait la voir attifée d'une robe faite à la maison et d'escarpins ravaudés. Tout l'été, elle avait attendu un miracle. À quoi bon expliquer ce qu'elle ressentait ? Elle ne voulait pas que sa mère se remette à pleurer ni que sa grand-mère lui rabâche qu'elle devrait être fière des sacrifices consentis. Elles avaient fait de leur mieux. À quoi bon exprimer sa déception ?
Ce n'est pas facile de sourire ces derniers temps, mère.
Elle marqua une pause.
J'ai toujours cru que j'entrerais au bal d'été au bras de mon père.
Moi aussi, répondit Kefria Vestrit à mi-voix.
J'ai le cœur gros que cela te soit refusé, Malta. Je me souviens encore de mon premier bal. Quand on m'a annoncé, j'étais si intimidée que c'est à peine si je tenais sur mes jambes. Alors, papa m'a pris la main, l'a posée sur son bras, et nous sommes entrés ensemble, et il était si fier de moi.
Sa voix s'assourdit subitement. Elle cligna les yeux.
Où qu'il soit, ma chérie, je suis sûre que ton père pense à toi autant que tu penses à lui.
Parfois, j'ai l'impression que c'est mal de rêver aux réceptions après le bal, de se préoccuper de robes, d'éventails et de coiffures, alors qu'il est prisonnier dans les îles des pirates.
Elle s'interrompit.
Peut-être devrions-nous remettre ça à l'an prochain ? Peut-être serait-il rentré d'ici là ?
Il est un peu tard maintenant pour y songer,
intervint grand-mère depuis son fauteuil. Elle était assise dans la lumière qui venait de la fenêtre et s'appliquait à façonner un éventail avec des restes de tissu.
Je savais comment faire autrefois, murmura-t-elle, irritée contre elle-même. Mes doigts ne sont plus aussi agiles.
Ta grand-mère a raison, malheureusement, chérie,
dit Kefria en faisant bouffer la dentelle de ses poignets.
Tout le monde attend qu'on te présente, et cela compliquerait encore la situation vis-à-vis de la famille Rouprous. De toute façon, je crois que je ne l'aime plus. Si Rain s'intéressait vraiment à moi, il serait revenu me voir.
Elle tourna la tête pour regarder sa mère au moment où Rack essayait de lui ajuster sa coiffure.
Tu as des nouvelles de sa mère ?
Rack lui prit le menton, lui redressa la tête et fixa les épingles. Kefria fronça les sourcils.
C'est surchargé, ça lui alourdit le visage. Il faut quelque chose de plus délicat. Enlève ça, on va réessayer.
Rack retira les épingles et Kefria demanda
« Que pourrait-elle nous apprendre de plus ?» Elle compatit à notre malheur. « Ils prient tous pour le retour de ton père. Rain attend impatiemment le bal d'été, » dit-elle en soupirant,
et elle ajouta
« Et elle propose avec beaucoup de délicatesse que nous discutions le paiement de notre dette 2 semaines après le bal. »
Traduction, elle veut voir comment Malta et Rain s'entendent durant le bal.
intervint grand-mère avec aigreur. Elle loucha sur son ouvrage exquis.
Ils doivent compter avec les apparences autant que nous, Malta. Car si Reine venait te rendre visite trop souvent avant ta présentation, on estimerait qu'il fait preuve d'une hâte malvenue. En outre, le voyage du désert des pluies à Terrilville n'est pas négligeable. On ne l'entreprend pas à la légère.
Malta poussa un petit soupir. Elle s'était répété tout cela bien des fois. Mais plus probablement, Reine avait décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être courtisée.
Peut-être le dragon avait-il quelque chose à voir là-dedans? Elle avait souvent rêvé du dragon depuis, et les rêves étaient tantôt troublants, tantôt effrayants. Parfois, le dragon parlait de Reine. Il disait que Malta était sotte de l'attendre. Il ne viendrait pas à son secours. Le seul espoir qui restait à Malta était de rejoindre le dragon et de le délivrer. Elle avait à maintes reprises essayé de lui expliquer que c'était impossible.
« Quand tu dis ça !»
rétorquait le dragon en se moquant d'elle.
« Tu dis en réalité qu'il t'est impossible de sauver ton père. C'est vraiment ce que tu crois ?»
Cette question la laissait toujours sans voix. Ce qui ne voulait pas dire qu'elle avait renoncé. Elle avait beaucoup appris sur les hommes ces derniers temps. Apparemment, c'était quand elle avait le plus besoin de leur force et de leur pouvoir qu'ils l'abandonnaient. Serwin et Reine avaient disparu quand elle leur avait demandé autre chose que des babioles ou des douceurs. De mauvaise grâce, elle reconnut aussi qu'au moment où elle avait le plus besoin de la force et du pouvoir de son père, il s'en était allé toute voile dehors et il avait disparu. Ce n'était pas sa faute, elle le savait bien. Mais cela ne modifiait en rien la leçon qu'elle avait apprise. On ne peut pas compter sur les hommes, même s'ils sont puissants, même s'ils vous aiment sincèrement. Pour sauver son père, il fallait qu'elle acquière du pouvoir par elle-même et qu'elle l'utilise. Après quoi, elle le conserverait. Il lui vint une idée. « Mère, père ne sera pas là pour m'accompagner au bal. Qui va le remplacer ?»«
Eh bien... »
Kefria parut mal à l'aise.
« Davad Restart s'est proposé, naturellement. Il serait très honoré. Il estime, je suppose, qu'on lui est redevable de sa négociation dans l'affaire du parangon. »
Elle s'interrompit, confuse. Rack eut un reniflement de dédain. Elle déchira les coutures de la coiffure comme s'il se fût agi de la figure même de Davad.
« On ne lui doit rien !»
déclara Ronica Vestrit fermement. Elle leva les yeux de son ouvrage pour les fixer sur sa petite fille.
« Tu n'es aucunement son obligé, Malta, aucunement !»«
Alors, puisque mon papa ne peut être là, j'aimerais entrer toute seule. »
Kefria eut l'air troublé.
« Ma chérie, je ne crois pas que ce serait convenable. »« Convenable ou non, c'est juste. Laisse-la faire !»
Malta dévisagea sa grand-mère avec ahurissement. Ronica lui renvoya un regard presque provoquant.
« Terrilville nous a laissé nous débrouiller seuls. Montrons que nous sommes toujours debout, y compris la cadette de nous trois. »
Elles restèrent à se regarder, et quelque chose passa entre elles qui ressemblait à de la compréhension.
« Faisons le savoir aussi au désert des pluies, »
ajouta Ronica à mi-voix. Althea arpentait les quais sur le môle ouest du port. Tous les trois ou quatre pas, ses jupes entravaient sa marche. Elle ralentissait, puis oubliait et rallongeait l'allure. Là-bas, sur la plage, elle s'était habituée au luxe des culottes. Maintenant que Parangon était amarré en ville au quai des Vives-Neufs, elle devait faire plus d'un effort pour se conformer aux usages, mais cette concession ne satisfaisait personne. Sa jupe de gros coton scandalisait Kefria, alors qu'Althea la trouvait trop mal commode. Elle avait hâte de se retrouver en mer, où elle se jurait bien de s'habiller à sa guise.
« Althea !»
appela Kendry d'une voix tonitruante. Elle s'arrêta net et se tourna vers la vive nef avec un large sourire.
« Bonjour !»
dit-elle en agitant la main. Il flottait haut aujourd'hui, mais au coucher du soleil, il serait alourdi par la cargaison avec laquelle il devait remonter le fleuve. On chargeait à bord des brouettées de melons. La terre arable était rare au désert des pluies. La plupart des denrées alimentaires devaient être importées. C'était la mission régulière de Kendry. Il ne faisait guère commerce que de vivres et de marchandises du désert des pluies.
« Bonjour à toi, jeune dame !»
La figure de proue mit les poings sur les bords du navire comme si c'était ses hanches. Il lui lança un regard de feinte désapprobation.
« Tu ressembles tellement à une fille de peine que j'ai failli ne pas te reconnaître !»
Elle répondit par un sourire hilar à sa taquinerie pleine de bonhomie.
« Eh bien, tu te connais, pour qu'une vive nef reste propre, une fille de peine n'y suffirait pas. Je serai pleine de graisse et de goudron avant la fin de la journée. Alors on verra si tu me reconnais plus facilement. »
Le Kendry avait été sculpté en beau jeune homme. Son sourire affable et ses grands yeux bleus faisaient de lui le favori du quai des vives nefs. Althea était depuis longtemps habituée à ses façons familières.
« Il va te falloir un sacré savonnage pour t'enlever tout ça avant le bal d'été !»
déclara-t-il avec ironie. C'était là un sujet moins grisant. Après force discussion avec sa mère et sa sœur, elle avait emporté la partie.
« Je n'irai pas au bal d'été, Kendry. On espère bien être parti d'ici là. D'ailleurs, même si j'y allais, qui voudrait danser avec une fille de peine ?»
Elle essaya d'alléger ses paroles avec un sourire. Il jeta un regard autour de lui, puis lui adressa un clin d'œil. « Je connais un marin qui n'aurait rien là contre, » fit-il, puis en baissant la voix. « Je serais ravi de prendre un message pour trois nousses, si ça te dit d'en envoyer un. » Bon, alors Grac Ténira était toujours terrée dans la cité du désert des pluies. Elle allait refuser d'un signe de tête, mais se ravisa.
« Je pourrais envoyer un billet si cela ne te gêne pas de le prendre. »«
Toujours ravi de rendre service à un ami. »
Il secoua la tête en direction du quai. Sur un ton plus confidentiel, il demanda
« Et comment va notre autre ami ?»
Althea réprima son agacement. « Aussi bien que possible, il a ses soucis. Il a été très isolé et négligé pendant longtemps, tu sais. » Et on lui en a fait voir de dur sans lui laisser beaucoup de temps. Un gréement neuf, un nouvel équipage, et par-dessus le marché, pas de membre de sa famille à bord.
Kendry haussa ses larges épaules nues.
Eh bien, s'il n'en avait pas tué autant, il y aurait peut-être plus de lutte chance dans les parages.
Il rit devant le regard mauvais d'Althea.
Je te dis juste comment je vois les choses, ma petite. Ne fais pas cette tête-là. Il s'est attiré la plupart de ses ennuis. Tous les navires dans ce port sont de cet avis. Il n'empêche qu'on lui souhaite tout de même bonne chance. Je n'aimerais rien tant que le voir se redresser et se racheter. Mais,
l'exhorta-t-il en levant un index vers elle,
il ne vaut pas qu'une dame court de gros risques pour lui. Si tu sens que ça ne va pas au moment du départ, tu le laisses prendre la mer sans toi.
Il s'adossa à son navire comme un gamin à un mur ensoleillé.
« Peut-être aimerais-tu faire un petit voyage sur le fleuve avec moi ? Je parie que je pourrais convaincre mon capitaine de t'emmener sans payer. »«
Je n'en doute pas et je te remercie de ta proposition. Mais quand Parangon naviguera, je serai à son bord. Après tout, c'est la vive nef de ma famille qu'on va rechercher. En outre, je crois qu'il ira très bien. »
Elle leva la tête vers le soleil.
« Il faut que je me dépêche, Kendry. Fais bien attention à toi. »
« Eh bien, ma petite, toi surtout, fais bien attention. N'oublie pas le billet. Je prévois d'appareiller avant midi demain. »
Elle pivota sur ses talons et lui fit signe gaiement de la main en s'éloignant. Ils étaient bien intentionnés, tous ces gens qui lui souhaitaient de réussir, et puis la prévenaient contre Parangon. Même Trell. Parfois, elle devait se forcer à se le rappeler. Le travail avait progressé mieux que prévu. Leur maigre pécule s'était augmentée grâce à la mystérieuse influence d'Ambre. Noll Flayt, soi-même, s'il vous plaît, s'était porté volontaire pour habiller le gréement neuf. Althea se demandait ce qu'Ambre savait sur Noll pour que ce vieux grigou se montre tout à coup si prodigue de son temps.
Quelque vilain petit secret à n'en pas douter.
La veille, un donateur bien intentionné, qui avait insisté pour rester anonyme, avait fait cadeau d'une vingtaine de barils de biscuits. Althea y voyait là aussi la main de son ami. Mais ce furent les recrues d'Ambre qui se révélèrent les plus utiles. Les esclaves arrivaient discrètement en pleine nuit après que Brashen avait renvoyé chez eux les ouvriers réguliers. Ils se glissaient à bord de Parangon et trimaient jusqu'à ce que grisaille le ciel de l'aube. Alors, ils se dispersaient aussi rapidement qu'ils étaient venus. Ils parlaient peu, travaillaient dur. Tous les visages étaient tatoués. Althea refusait de penser aux risques qu'ils couraient en faussant compagnie à leur maître toutes les nuits. Elle se doutait que lorsqu'ils prendraient la mer, la plus grande partie de l'équipe de nuit serait dans les cales. Ils compléteraient l'équipage enrôlé comme combattants et matelots. Elle ne voulait pas savoir comment tout ceci avait été arrangé. Brashen avait cherché à la mettre dans la confidence un après-midi, mais elle s'était bouché les oreilles. « Moins j'en sais, mieux ça vaut », lui avait-elle rappelé. Il avait eu l'air content. À cette pensée, elle sourit. Elle secoua la tête. Que lui importait qu'il soit content ou non? Il ne s'était guère embarrassé de lui plaire quand il avait pris sa dernière décision qui aurait dû provoquer une scène mémorable. Mais cette vache de Brashen ne s'était pas privée de faire valoir ses prérogatives de capitaine. Au moins l'avait-il appelée dans la chambre du capitaine avant de lui annoncer la nouvelle. Si l'on ne pouvait voir la figure furibonde d'Althea, la fenêtre cassée, en revanche, permettait à n'importe qui de les entendre hausser le ton. Brashen était assis nonchalamment à la table des cartes nouvellement réparée. Il examinait une poignée de fragments de toile qu'il avait retirés d'un sac.
« C'était mon droit. J'ai enrôlé le second. »
Il avait incliné la tête vers elle d'une façon exaspérante.
« Vous n'auriez pas fait la même chose à ma place ?»«
Si, »
avait-elle répondu en sifflant.
« Mais c'est moi qui vous ai enrôlé, Crénon. Je croyais que c'était entendu. »«
Non, » repartit-il pensivement. Il posa sur la table un bout de chiffon, le repoussa, puis parut s'apercevoir que le croquis dessiné dessous était à l'envers.
« Nous n'avions pas passé d'accord à ce sujet, sauf que vous navigueriez avec moi, avec le parangon, quand il naviguerait. Nous n'étions convenus de rien d'autre.
Si vous voulez bien vous rappeler, j'ai suggéré il y a quelque temps que vous ne travailliez pas avec les hommes, considérant le genre d'individu que j'ai été obligé d'enrôler. »
Elle avait laissé échapper un petit bruit de dégoût. Certains d'entre eux méritaient à peine le nom d'homme. Elle allait répliquer quand il leva la main.
« Sur n'importe quel autre navire, avec un autre équipage, vous auriez été la première pour moi, vous le savez. Mais cet équipage-là va exiger une poigne de fer. Les beaux raisonnements n'auront aucune prise sur la plupart, alors que la menace d'une bonne volée sera peut-être efficace. »
« Je pourrais très bien leur en flanquer une, »
fit-elle en mentant vaillamment. Il secoua la tête.
« Vous ne faites pas le poids. Ils ne vous respecteront pas tant qu'ils ne vous auront pas provoqué et que vous ne leur en aurez pas remontré. Même si vous aviez le dessus, cela impliquerait un déchaînement de violence superflu sur le parangon, et je ne suis pas disposé à prendre ce risque. Si vous vous faites battre... »
Il ne s'étendit pas sur les conséquences.
« Donc, j'ai enrôlé un homme suffisamment costaud pour que les autres n'aient pas envie de le provoquer. Et ceux qui le feront ne gagneront certainement pas la partie. » J'ai enrôlé Lavoy, une brute, et c'est peu dire. Mais c'est aussi un sacré marin. S'il n'avait pas ce caractère, il se serait élevé jusqu'au commandement depuis des années. Je lui ai dit que je lui donnais sa chance sur le parangon. S'il fait ses preuves, tout Erilville saura qu'il peut être second sur n'importe quel navire. Il en veut vraiment, Althea. C'est l'occasion qu'il a décidé. Je ne lui propose pas plus d'argent que ce qu'il gagnerait comme voyou sur un vaisseau plus grand. Il veut faire ses preuves, mais je doute qu'il ait l'envergure. C'est là que vous intervenez. Je suis le capitaine, il est le second. Vous serez le lieutenant. Il sera coincé entre nous deux. Il ne s'agit pas de saper son autorité, mais de la tempérer. Vous voyez où je veux en venir.
J'imagine, répondit-elle de mauvaise grâce.
Elle comprenait sa logique, ce qui ne l'empêchait pas d'être piqué au vif.
« Lieutenant, alors ?
concéda-t-elle. Il y a autre chose. Quelque chose qui vous plaira tout autant, prévint-il. C'est-à-dire ? Ambre a gagné le droit d'être à bord. Elle a mis dans cette affaire plus de temps et d'argent qu'aucun autre marin, nous y compris. Je ne sais pas quelle sorte de matelot elle fera. Elle m'a avoué avoir peu de goût pour les voyages en mer. Elle s'est révélée un superbe charpentier dans le gros œuvre comme dans le travail délicat. Ce sera donc sa charge sur le navire. Elle partagera votre chambre. Althea poussa un gémissement de protestation. « Et Jack ? » ajouta-t-il sans pitié. « Elle voulait venir aussi. Elle a acquis une bonne expérience de la mer dans les six duchés, et elle était désireuse d'embarquer pour pas cher, par défi, comme elle a dit. Vous l'avez vu dans le gréement quand on l'a habillée. Elle est agile et téméraire. Je serais un idiot de refuser pareil matelot. Je serais aussi un idiot de la loger en compagnie des vauriens de l'équipage. » Il y en a au moins un qui a été marqué comme violeur et un autre auquel je n'oserais même pas tourner le dos. » Il haussa les épaules. « Elle partagera votre chambre avec Ambre. Je vous assignerai à des quarts différents de façon que vous ne soyez pas trop serrés pour dormir. »
« On va être entassés là-dedans comme des harengs en caque !» protesta Althea.
« Ambre est aussi mécontente que vous. Elle prétend qu'elle a absolument besoin d'un moment de solitude chaque jour. » Je lui ai dit qu'elle pourrait avoir l'usage de ma chambre quand je n'y serai pas. Cela vaut aussi pour vous.
Ça va faire jaser l'équipage.
Brachen sourit avec aigreur. Espérons qu'ils n'auront rien de plus grave à se mettre sous la dent. C'était un espoir qu'Althea partageait ardemment. Même à présent, tandis qu'elle longeait le quai baigné de soleil en direction du navire, elle priait pour que ce soit une journée ordinaire. Pourvu que Parangon ne pleure pas intarissablement, la tête dans les mains, ou qu'il ne répète pas en boucle la même chanson paillarde. Certains jours, quand il lui disait aimablement bonjour, c'était comme une bénédiction venue tout droit de ça. La veille, lorsqu'elle était arrivée au quai, il tenait un carrelet mort offert par un farceur. On ne sait pourquoi, le poisson mort le bouleversait, mais il n'avait pas voulu le lui donner ni s'en séparer. Ambre avait finalement réussi, à force de cajolerie, à le lui faire abandonner. Parfois, elle était la seule à savoir le prendre. Pour compléter l'effectif de l'équipage, on avait enrôlé des hommes quelques jours auparavant et plusieurs fois depuis. Brachen débusquait des matelots, les convainquait de signer, les faisait embarquer pour les voir s'en aller le lendemain. La cause n'en était pas tant aux bizarreries de Parangon. Comme l'odeur de la peur, sa folie imprégnait l'atmosphère du navire. Ceux qui étaient assez sensibles pour l'apercevoir, tout en ignorant la source, faisaient des cauchemars ou étaient saisis de terreur panique quand ils travaillaient dans les cales. Ni Brachen ni Althea ne les forçaient à rester à bord. Elles savaient qu'il valait mieux les perdre maintenant qu'avoir en mer des matelots nerveux ou affolés. C'était même devenu une plaisanterie locale. L'équipage hétéroclite était déjà assez incongru au regard des normes de Terrilville, sans que s'y ajoutent des hommes qui sautaient du vaisseau et répandaient le bruit des choses singulières qui se déroulaient à bord. Aujourd'hui, Parangon paraissait assez calme. Du moins, ne l'entendait-elle pas extravaguer. Tout paraissait normal sur le quai.
« Salut Parangon !»
dit-elle en passant devant la figure de proue pour se diriger vers la planche d'embarquement.
« Salut à toi !»
répondit-il avec affabilité. Ambre était assise sur la lisse de proue, les jambes ballantes. Ses cheveux détachés flottaient au vent. Elle avait adopté un étrange accoutrement ces derniers temps. Des culottes larges, une vareuse et un gilet. En tant qu'étrangère à Terrilville, elle pouvait se le permettre. Althea l'enviait.
« Des nouvelles de l'anneau d'or ?»
demanda Parangon.
Pas que je sache, répondit-elle. Pourquoi?
J'ai entendu dire qu'il tarde à rentrer à Terrilville. Les navires qui auraient dû le croiser ne l'ont pas vu.
Althea sentit son cœur se serrer. Eh bien, un navire peut être retardé pour un tas de raisons, même une vive nef, fit-elle remarquer avec entrain.
Bien sûr, reprit Parangon. « Des pirates,
des serpents, des tempêtes terribles,
des vents contraires, poursuivit Althea, des retards dans le chargement de la cargaison.
Il eut un reniflement de mépris. Ambre haussa les épaules. Au moins était-il rationnel aujourd'hui.
Althea franchit la planche d'embarquement. La Voy était campée au milieu du pont, les poings sur les hanches, et il lançait des regards mauvais autour de lui.
C'était le moment le plus difficile, les mots lui écorchaient la gorge.
« À vos ordres, commandant !»
dit-elle avec raideur.
Il la toisa des pieds à la tête d'un œil de poisson, et il eut un rictus de dédain.
« Je vois !» dit-il au bout d'un moment. « L'avitaillement arrive aujourd'hui. Prenez 6 hommes et allez dans la cale. Faites l'arrimage à mesure. Vous savez comment vous y prendre. »
Il y avait dans sa voix une imperceptible interrogation. « Je sais, » déclara-t-elle d'une voix neutre. Elle n'allait pas lui énumérer ses références. Elle portait à sa ceinture l'étiquette acquise sur Ophélie, recommandation amplement suffisante pour n'importe qui d'autre sur les quais de Terrilleville. Elle balaya le pont du regard et choisit ses hommes pour la journée en pointant un doigt sur eux.
« Aff et toi, Jake, Cypros, toi et Kert, tout le monde en bas !»
Elle ne connaissait pas encore tous les noms, d'autant que, pour tout compliquer, les matelots défilaient. Elle n'était pas enchantée par la tâche qui l'attendait. La Voy commandait l'équipage de la plage qui embarquait l'approvisionnement et le passait à sa bande en bas. Son travail consisterait à répartir méthodiquement et à arrimer solidement la cargaison. Elle se doutait qu'il allait bousculer et surmener son équipe pour voir si elle suivait la cadence. Cette sorte de rivalité était fréquente entre officiers sur un vaisseau. Parfois, elle était sans malice, ce qui n'était pas le cas présent. Le Parangon s'était révélé un fin navire en mer. Brashen avait été très pointilleux sur son lest, mais le vaisseau roulait encore trop au gré d'Althea. La façon dont on le chargerait serait essentielle, surtout s'ils étaient toutes voiles dehors et que le vent se levait. Elle était partagée. Elle ne tenait pas à être seule responsable de la stabilité du navire, mais elle ne faisait confiance à personne d'autre, sauf peut-être à Brashen. Son père avait toujours été très exigeant en matière de chargement. Peut-être avait-elle hérité de cette disposition. Dans la cale, l'air était brûlant, saturé des odeurs épaisses du navire. Malgré les panneaux de cale ouverts, il n'y avait pas un souffle d'air. Ça, merci, c'était l'odeur du goudron frais, de l'étoupe et du vernis. Avant le terme du voyage, s'y ajouteraient les remugles de la sentine, le fumet de la sueur et les relents de cuisine rance. Pour l'heure, Parangon fleurait le bateau neuf. Mais il n'était pas neuf. Partout, on découvrait des signes d'usage. Des initiales gravées dans le bois d'une couchette, de vieux crocs de hamac ou de sacs de marin. D'autres marques plus sinistres. Des empreintes sanglantes de mains indiquaient qu'un blessé avait rampé là. Une giclée de sang provoquée manifestement par un coup violent. Le bois sorcier avait une mémoire. Althea soupçonnait qu'un massacre avait dû avoir lieu à bord. Ce qui ne concordait pas avec les assertions de Parangon, qui se vantait d'avoir tué ses équipages. Mais la moindre allusion à ces événements le mettait dans une rage frénétique. Il ne saurait probablement jamais la vérité complète sur ce qu'il avait subi. Elle avait eu raison au sujet de la Voy. Un flux continu de vivres menaça bientôt de submerger son équipe. Le premier imbécile venu est capable de charger rapidement une caisse ou un baril à bord, se disait-elle. Mais il fallait quelqu'un d'expérience pour répartir correctement la futaille. Elle travaillait aux côtés de ses hommes. En qualité de lieutenant, c'est ce qu'on attendait d'elle. Elle devinait que cela faisait partie du compromis proposé par Brashen. Elle croyait toujours pouvoir s'acquérir le respect de l'équipage qui la considérerait comme son égale. Elle n'aurait pas de meilleure occasion de faire ses preuves. Elle pressa Jack autant qu'elle-même, prenant la mesure de cette femme, pour s'assurer qu'elle était bien ce qu'elle prétendait être. Jack paraissait plus à l'aise en compagnie des hommes que ceux-ci avec elle, mais c'était à prévoir. Elle avait les manières des 6 duchés. Elle se révélait à la hauteur et son entrain facilitait la tâche. Elle ferait une bonne compagne.
La seule inquiétude d'Althea était qu'elle se montre trop amicale avec les hommes. Elle n'avait pas fait mystère de ses joyeux appétits. Cela ne risquait-il pas de créer des ennuis à bord? Elle conclut sans enthousiasme qu'il faudrait en toucher deux mots à Brashen. C'était le capitaine, après tout. Qu'il se débrouille avec ça. La lumière qui filtrait par les écoutilles quadrillait la membrure massive des cales. Une fois les caisses, barils et futailles embarquées, les déplacer n'était plus qu'une question de muscles. En cela, sa petite taille conférait à Althea un singulier avantage pour jouer des pieds et des mains et se mouvoir à quatre pattes. Les caisses et les coffres étaient amenés, l'équipe de cales les attrapait à la main ou les crochait avec une gaffe. On les chargeait sur l'épaule, les installait, puis on les arrimait pour les empêcher de riper. Les barils se succédaient, et elle se fit la réflexion qu'on ne tarderait pas à regretter de n'en avoir pas eu davantage à embarquer. L'effectif de l'équipage du Parangon était plus important que d'ordinaire. Il fallait suffisamment d'hommes pour se battre et exécuter les manœuvres en même temps. Ils ignoraient dans quel port ils relâcheraient, et ils n'auraient guère d'occasion de s'avitailler, et ils allaient charger le navire autant qu'ils pourraient se le permettre. Mieux valait trop que pas assez. Elle observait ses hommes et distinguait rapidement celui qui travaillait bien de celui qui en faisait le moins possible. Cypros et Kert faisaient leur part, mais il fallait les diriger. Jack était une perle. Elle mettait du cœur à l'ouvrage et anticipait les complications éventuelles. Semoy, un homme d'un certain âge pourvu d'un nez enluminé de poivreau, se plaignait déjà qu'il avait mal à l'épaule. S'il ne parvenait pas à suivre la cadence, il valait mieux le débarquer avant le départ. Quant aux deux autres, Aff était un jeune gueulard qui ne cachait pas son dédain pour les ordres d'Althea, alors que Clapeau, un échalas d'une quarantaine d'années, était plein de bonne volonté mais stupide. Elle préférait sa stupidité à la quasi-insubordination de Aff. Elle devina qu'il lui faudrait bientôt mettre les choses au point avec lui. La perspective ne l'enchantait guère. Il était plus costaud qu'elle et solidement musclé. Si elle s'y prenait correctement, on n'en viendrait pas à la confrontation physique. Elle pria ça qu'il en soit ainsi. Lavoy descendit à deux reprises dans la matinée pour inspecter son travail. Chaque fois, il saisit le moindre prétexte pour trouver à redire. Chaque fois, elle grinça des dents et déplaça le chargement selon son bon vouloir. « C'est le second !» se répétait-elle. Si elle passait outre à ses ordres, elle saperait son autorité auprès des hommes. Quand, pour la quatrième fois, il descendit l'échelle, elle crut qu'elle allait se briser net les molaires. Il regarda autour de lui et approuva de mauvaise grâce d'un hochement de tête. « Continuez !» Ce fut tout l'encouragement dont il la gratifia, mais elle le considéra comme un compliment. Alors comme ça, il éprouvait le besoin de tâter son courage. Eh bien, il ne la prendrait pas en défaut de mollesse ni d'insubordination. Ils en étaient convenus avec Brashen. Elle tiendrait parole. Mais la journée était encore longue. Lorsqu'elle eut achevé son quart et qu'elle déboucha sur le pont, l'après-midi ensoleillé lui parut fraîche et douce. Elle tira sur sa chemise trempée de sueur et souleva sa tresse collée à sa nuque. Elle se mit en quête d'ambre. Elle trouva le charpentier du navire en pleine conversation avec Brashen. Elle tenait par le bout deux glaines dans ses mains gantées. Althea la regarda en silence faire un nœud d'écoute double maladroit. Brashen le lui prit des mains, secoua la tête, le défit et le lui renvoya. « Recommencez, recommencez jusqu'à ce que vous puissiez le faire les yeux fermés. S'il arrive qu'en cas d'urgence je sois obligé de vous tirer sur le pont, il y a des chances que ce soit par gros temps. »
Voilà qui est rassurant,
marmonna Ambre à mi-voix, mais elle s'exécuta. Althea s'émerveillait de la faculté d'adaptation de son ami. Brashen affirmait tranquillement sur tous son autorité de capitaine. Althea était habituée à ce changement de rôle. Elle y avait déjà assisté sur la Vivacia, lorsqu'un simple matelot montait en grade et devait soudainement modifier ses rapports avec ses camarades. Elle savait que parfois la transition pouvait être sanglante, bien que les choses ne fussent jamais allées si loin sur Vivacia. Elle était prête à concéder à Brashen tout ensemble la distance et le respect qu'exigeait son titre de capitaine.
Il se pouvait que cette distance facilite leur relation à tous deux. C'est pourquoi elle se força à adopter un ton déférent. « Capitaine, j'ai un souci avec l'équipage. » Il reporta son attention sur elle. « C'est-à-dire ?» Elle respira puis se lança. Jack se montre un peu trop amical avec les matelots. Son attitude peut entraîner des problèmes plus tard. Tant qu'on est au port, c'est une chose, mais en pleine mer, ça risque de se corser. Il hocha la tête. « Je sais, j'y ai déjà pensé. La plupart de ces hommes n'ont jamais navigué avec des femmes à bord, sauf peut-être une épouse de capitaine. J'ai l'intention de les rassembler et de leur parler carrément. Je leur ferai comprendre que ce ne sera pas toléré à bord du vaisseau. » Ambre avait suivi le dialogue en haussant les sourcils. Pour la première fois, Parangon intervint.
« Qu'est-ce qui ne sera pas toléré ?»
demanda-t-il avec curiosité. Althea parvint à réprimer un sourire. Brachen accueillit la question avec sérieux. « Je ne tolérerai entre les membres d'équipage aucune relation qui puisse affecter la bonne marche du bâtiment. » Durant leur conversation, Jack s'était approché. Elle haussa un sourcil, mais garda le silence jusqu'à ce que Brachen la salue. « Jack, il y a un problème ?» Elle avait tout entendu. Elle ne fit pas l'ignorante.
« Non, commandant. Et je n'en prévois pas. J'ai déjà navigué avec des équipages mixtes. Sauf votre respect, je sais me conduire en étroit voisinage. »
Althea fut la seule sans doute à deviner que Brachen avait grand-peine à retenir son sourire. « Je n'en doute pas, Jack. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que les hommes, eux, ne sachent pas se maîtriser. » Jack ne sourit pas.
« Je suis certaine qu'ils apprendront, commandant. »
À la surprise générale, Parangon ajouta.
« Espérons que la leçon ne sera pas trop douloureuse pour personne. »
Il y a passé ces trois derniers jours. C'est simple. Si cela en vaut la peine, il devrait déjà le savoir. Sinon, j'aimerais qu'il aille travailler autre part. Il y a des endroits qui, à mon avis, sont beaucoup plus prometteurs que cette petite cellule.
Bendir posa sa pipe.
« C'est tout ce que je voulais dire, »
répéta-t-il avec provocation. Il jeta à son frère cadet un coup d'œil exaspéré. Rain était assis sur la table de bois ciré. Il semblait harassé et pâle. Sa chemise était froissée comme s'il avait dormi sans la retirer.
« Tu as dit à peu près la même chose quand j'ai exigé plus de temps pour découvrir les joyaux de feu, »
répliqua-t-il.
« Si tu m'avais écouté à ce moment-là, il y aurait eu beaucoup moins de dégâts. Tout ne se fait pas en un jour, Bendir.
Comme ta croissance, par exemple. »
Maugréa l'autre à part soi. Il examina le fourneau de sa pipe qui s'était éteinte. Il l'écarta. Sa chemise brodée et ses cheveux soigneusement peignés contrastaient vivement avec l'apparence de son frère.
« Bendir !»
intervint Yanni Rouprous d'un ton de reproche.
« Ce n'est pas juste. Ray nous a dit qu'il avait beaucoup de mal à se concentrer sur sa tâche. Si je me souviens bien, tu n'étais pas très concentré non plus quand tu faisais ta cour à Rorella. »
Elle sourit affectueusement à son fils cadet.
Il serait beaucoup moins distrait s'il choisissait une femme raisonnable comme Rorera au lieu d'une enfant gâtée de Terrilville qui n'arrive même pas à se décider, »
rétorqua Bendir.
« Regarde-le, on dirait un champignon. C'est tout juste s'il ne se cogne pas au mur. Depuis qu'il a commencé à courtiser cette Malta, elle n'a fait que le tourmenter. Si elle n'arrive pas à se décider, alors... »
Rain bondit sur ses pieds.
« Tais-toi !»
cria-t-il sauvagement.
« Tu ne sais absolument pas ce qu'elle est en train de subir, alors tais-toi !»
Il saisit brusquement les anciens parchemins sur la table sans faire autrement cas de leur fragilité et il gagna la porte à grandes enjambées. Yanni lança un regard irrité à son aîné. Elle rejoignit Rain précipitamment et le retint par l'épaule.
« Je t'en prie, mon fils, reviens. Assieds-toi et parle avec nous.
Je sais que tes nerfs sont mis à rude épreuve en ce moment, et je comprends bien que tu doives partager le chagrin de Malta pour la disparition de son père.
Sans parler de la disparition de notre vive nef,
ajouta Bendir en sourdine, assez distinctement cependant, pour que son frère saisisse sa remarque.
Celui-ci mordit à l'hameçon. Il fit volte-face pour répondre à cette nouvelle provocation. « C'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas ? »
dit-il sur un ton vindicatif.
« Une bonne affaire, un marché avantageux. Tu te moques complètement de ce que je ressens pour Malta. Tu n'as même pas voulu m'accorder du temps pour que je puisse me rendre à Terrilville le mois dernier quand elle a reçu les mauvaises nouvelles. C'est toujours la même chose avec toi, Bendir. L'argent, l'argent, l'argent. Je trouve ces parchemins et j'ai besoin de temps pour les comprendre. Ce n'est pas facile. Il reste très peu de documents des anciens, ce qui rend la traduction difficile. Je veux déchiffrer tout ce qu'ils peuvent nous dire. J'espère ainsi apprendre pourquoi ces écrits sont si rares. Les anciens étaient à l'évidence des gens cultivés. Il devrait y avoir un tas de livres et de manuscrits, mais où ? Tu te moques complètement qu'on résolve la grande énigme qui peut être la clé de toute la cité. Pour toi, ces documents ne représentent qu'une chose. Peut-on tirer profit de ce qu'ils révèlent ? Sinon, abandonne-les et va déterrer autre chose. »
Comme pour singer l'attitude de Bendir, il lança négligemment les parchemins sur la table.
Yanni grimaça. « Il n'en faudrait pas beaucoup pour les réduire en miettes. »«
Je vous en prie, » dit-elle sèchement.
« Tous les deux, asseyez-vous, nous avons à discuter. »
De mauvaise grâce, ils s'approchèrent de la table. Yanni prit place exprès au haut bout pour affirmer son autorité. Bendir était devenu un peu trop impérieux à l'endroit de son frère dernièrement. Il était temps de lui rabattre le caquet. Cependant, elle ne voulait pas encourager Rein dans sa sombre mélancolie. Il était perpétuellement maussade ces derniers temps. Elle en avait franchement assez. Elle passa à l'attaque sans préambule. Elle leva un doigt vers Bendir.
« Tu n'as aucune excuse d'être jaloux de la cour que fait ton frère. Quand tu t'es entiché de Rorella, toute la famille a supporté patiemment ta conduite grotesque. Tu passais tout autant libre à faire le pied de grue sur le pas de sa porte. Si je me souviens bien, tu as exigé qu'on redécore une aile entière de la salle du coq, qu'on la repeigne dans toutes les nuances de vert, parce que tu disais que c'était sa couleur préférée. Et tu as refusé que j'en discute avec elle pour savoir si c'était vraiment ce qu'elle désirait. Tu te rappelles comment elle a réagi à ta surprise ? »
Les yeux de Bendir lancèrent des éclairs. Rein eut un sourire hilar. Elle ne l'avait pas vu sourire ainsi depuis un certain temps. Elle aurait aimé le faire durer, ce sourire, mais il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud.
« Et toi, Rein, il faut que tu cesses de te comporter comme un gamin en amoureux transi. Tu es un homme. Si tu étais tombé amoureux à 14 ans, passe encore, mais tu en as plus de 20. Tu dois t'exercer à plus de retenue, à plus de réserve. » Tu as voulu te précipiter à Terrilville sans être annoncé, en nous prévenant au dernier moment, ta requête était déraisonnable. Et cette bouderie dans laquelle tu t'obstines depuis n'est pas digne de toi. Tu vas partir bientôt. Tu escorteras ta dame à son premier bal d'été. Que peux-tu nous demander de plus ?
Des étincelles de colère s'allumèrent dans les yeux de Rein.
Bien. S'ils étaient tous les deux fâchés contre elle, ils partageraient peut-être leur doléance.
Le stratagème avait toujours fonctionné quand ils étaient enfants.
« Que pourrais-je vous demander de plus ? Un peu de compréhension à son égard pour ce qu'elle endure. Je voulais aller la voir, lui apporter tout le soutien possible à elle et à sa famille durant cette période difficile. Mais on ne m'a autorisé à rien. Tu as envoyé des billets polis de sympathie et tu as dit que si j'écrivais à Malta directement, ce serait faire preuve d'un empressement excessif. Mère, j'ai l'intention de l'épouser. Est-ce faire preuve d'un empressement excessif que de prier ma famille d'aider la sienne ? Il ne t'appartient pas de disperser les ressources de la famille, Rein. Tu dois le comprendre. Dans ton ardeur, tu nous engagerais tous beaucoup trop loin. Je sais que la vie de son père et la vive Nef sont en jeu. Mon cœur compatit. Mais cela représente aussi pour nous un investissement important
qui est peut-être déjà, à l'heure qu'il est, irrémédiablement perdu.
Rain, nous ne pouvons jeter l'argent par les fenêtres, non.
Ne t'en va pas avec cet air méprisant. Écoute-moi jusqu'au bout.
Ce que tu considères comme de la cruauté n'est que du bon sens.
Devrais-je vous laisser, Malta et toi, vous ruiner dans ce qui n'est peut-être qu'une cause perdue?
Nous avons tous entendu parler de ce Kenneth. Je ne tiens pas Kyle Havre en haute estime, mis à part le fait qu'il soit le père de Malta. Ceci doit rester entre nous. Il a bien cherché ce qui lui est arrivé. Je ne dis pas qu'il le méritait, seulement qu'il s'y est exposé, lui et sa famille.
Je n'approuve pas davantage la voie qu'ont choisi les Vestrit, à savoir tenter ce sauvetage. Leurs amis et voisins eux-mêmes ne les soutiennent pas.
Tout ceci est inconsidéré.
Althea est volontaire jusqu'à l'entêtement. Elles ont engagé ce fils de marchand déshérité pour tenir la barre et accepter l'argent d'une étrangère. Le navire qu'elles utilisent n'aurait jamais dû quitter la plage. Parangon est un reproche pour nous tous. L'ignorance est notre seule excuse. On n'aurait jamais dû utiliser des bois différents pour sa construction. Il n'en demeure pas moins que l'élu de chance porte la plus grande responsabilité.
Ils ont embarqué une cargaison trop lourde sur le pont et augmenté la voilure pour compenser. Il était chargé dans les hauts quand il a chaviré.
À cause de notre avidité, nous avons bâclé la construction de ce navire, et leur avidité à eux l'a rendu fou. Nous sommes tous responsables de ce qu'il est devenu. L'échouage sur la plage était la mesure la plus sage qu'on ait jamais prise vis-à-vis de lui. Le radoub, la mesure la plus insensée.
Avait-elle le choix?
Demanda Rain à mi-voix.
Leur fortune s'écroule. Elles ont été parfaitement honnêtes avec nous. Aussi tentent-elles ce qu'elles peuvent avec l'argent qu'elles mendient ou empruntent.
Elles auraient pu attendre, déclara Yanni. Il n'y a pas si longtemps que ça. Kenneth est connu pour retarder la demande de rançon de ses victimes. Elle va leur parvenir.
Non, elle ne leur parviendra pas. Au dire de tout le monde, il voulait une vive nef et il en a pris une. Maintenant, le bruit court que l'anneau d'or a disparu lui aussi. Te rends-tu compte à quel point cela nous rend vulnérables, mère? Les pirates peuvent remonter le fleuve des pluies. Nous n'avons jamais envisagé pareil péril. Nous n'avons rien de prévu pour les arrêter. Je crois que les Vestrit ont pris la seule décision raisonnable. Cette vive nef doit être récupérée à tout prix. Elles risquent leur vie et leur fortune en agissant ainsi. Au bout du compte, elles le font pour nous protéger. Et nous, que faisons-nous? On les laisse tomber.
Que voudrais-tu que nous fassions? Demanda Bendir d'un ton las.
Rain sauta sur l'occasion. Oubliez la dette de la vive nef. Participez au financement de l'expédition, pour le moins. Agir contre le gouverneur qui a laissé la piraterie et l'esclavage proliférer et qui nous a ainsi précipités dans cette situation.
Bendir fut indigné.
Non seulement tu proposes qu'on risque notre fortune avec la leur, mais qu'on plonge en plus dans un tourbillon politique. On en a débattu dans la Société des marchands du désert des pluies. Tant que Terrilville ne s'est pas engagé à se soulever à nos côtés, il est trop tôt pour provoquer le gouverneur. J'en ai assez, autant que toi, que nous soyons sous sa botte, mais...
Mais tu le supporteras jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à courir le premier risque, acheva Rain furieux.
Tout comme Terrilville est prête à laisser les Vestrit courir le premier risque en défiant les pirates, tout comme Ténira s'est retrouvée seule à défier les ministres des taxes.
Yanni n'avait pas prévu que la conversation prendrait ce tour, mais elle profita de l'aubaine.
En cela, je suis d'accord avec Rain. La situation ne s'est pas améliorée depuis que je me suis adressé au Conseil des marchands de Terrilville.
Mais je crois que l'état de l'opinion a changé.
D'après les rapports que j'ai reçus concernant l'émeute des taxes, je crois que si la famille Rouprousse prenait position, les autres suivraient. Et à mon avis, nous devrions exiger l'indépendance complète.
Un profond silence accueillit ces paroles. Au bout d'un moment, Rain reprit d'une petite voix.
Et moi qui croyais être le seul disposé à risquer la fortune de la famille,
On risque davantage en ne faisant rien, déclara Yanni. Il est temps de nous allier avec des gens qui pensent comme nous, qu'ils soient du désert ou de Terrilville.
Comme Grag Ténira, suggéra Rein.
Je ne crois pas qu'il se soit réfugié chez nous par hasard. La famille Bosquet l'héberge. Ils ont de solides liens commerciaux avec les Ténira. Et une solide sympathie à l'égard de ceux qui veulent se soulever contre le gouverneur,
ajouta Rein pensivement.
Depuis quand mon petit frère s'intéresse-t-il à la politique?
Demanda Bendir surpris.
On a dû te traîner à cette réunion à Terrilville, ce me semble.
Et c'est tant mieux. Cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses.
Repartit Rein avec aisance. Puis il s'adressa à sa mère.
On devrait inviter Grag Ténira à dîner. Avec les Bosquets, bien sûr.
Je crois que ce serait sage.
Elle regarda son aîné, et quand il eut approuvé d'un hochement de tête, elle poussa un imperceptible soupir de soulagement. Elle ne vivrait pas éternellement. Plutôt ses fils apprendraient à travailler ensemble, mieux ce serait. Elle se hasarda à changer de sujet.
« Alors, Rein, as-tu tiré quelque chose de ces vieux papiers ?»
Elle indiqua d'un signe de tête les anciens parchemins qu'il avait laissés sur la table.
« Oui et non. »
Il fronça les sourcils en les ramassant.
« Il y a beaucoup de mots inconnus. Ce que j'ai déchiffré est à la fois passionnant et décevant. Apparemment, il existerait une autre cité bien en amont de la nôtre. »
Il gratta sur sa joue une plaque écailleuse.
« Si j'interprète correctement, ce serait en pleine brousse, aux confins de ce que certains appellent le royaume des montagnes. Si cette cité existait et que nous puissions la localiser, eh bien, cela représenterait la plus grande découverte depuis la fondation de Troisnous.
Un rêve fumeux,
dit Bendir avec dédain.
Il y a déjà eu des explorations en amont, on n'a rien trouvé. S'il y a une autre cité, elle est sans doute ensevelie encore plus profondément que Troisnous ne l'était.
Qui sait? Lança Rein sur un ton de défi. Je te répète, d'après ce que j'ai pu traduire, c'est une trotte en amont.
Il est très possible qu'elle ait échappé à la destruction.
Il eut l'air méditatif.
D'après ce que nous savons, les anciens auraient pu survivre là-bas. Imagine ce qu'ils pourraient nous apprendre.
Il laissa sa voix en suspens sans s'apercevoir du regard inquiet qu'échangeaient sa mère et son frère.
Je crois que cela mérite examen. Je crois aussi que je vais interroger le dragon.
Non!
Décréta brutalement Bendir.
Rein, je pensais que nous avions été clairs là-dessus. Tu ne dois pas entrer dans la salle du coq couronné. Ce fût a beaucoup trop de pouvoir sur toi.
Ce n'est pas un fût, c'est un dragon. Il devrait être délivré.
Yanni et Bendir ne firent rien pour dissimuler leur regard de connivence. L'aîné prit la parole sur un ton qui frisait la colère.
J'aurais dû débiter cette fichue poutre depuis longtemps, dès que j'ai commencé à me douter que tu y étais si sensible. Mais ce n'était pas le bon moment. C'est le dernier fût de bois sorcier, et le plus grand. Le navire qu'on va construire avec sera la dernière vive nef. À moins que tu aies raison à propos de ton autre cité. Peut-être pourrions-nous découvrir plus de bois sorcier là-bas.
Tu ne trouveras rien sans moi.
Fit remarquer Rein à mi-voix.
« Et je ne t'aiderai pas si tu tues le dragon. »
Bendir se croisa les bras sur la poitrine, un geste que Yanni lui connaissait bien. Il tâchait par là de contenir sa colère.
Rein, le rêveur, Rein, l'érudit, agaçait si souvent Bendir, le pragmatique.
Elle avait espéré qu'avec le temps ses fils apprendraient à se compléter. Maintenant, elle craignait qu'il ne soit toujours à couteau tiré.
Il n'y a pas de dragon,
dit Bendir d'une voix lente, irrévocable.
L'être, quel qu'il fût,
qui était à l'intérieur est mort depuis longtemps, mort fou probablement. Tout ce qui reste de lui, ce sont ses souvenirs. Il n'est pas plus vivant que ne le sont les vives nefs. Le bois absorbe les souvenirs et les conserve, c'est tout. Sinon, nous ne serions pas en mesure de couper un fût, de permettre aux gens de Terrilleville d'y engranger de nouveaux souvenirs. Quiconque parle à une vive nef parle en réalité à soi-même, enrichi des souvenirs de la famille conservés dans le bois. C'est tout. Quand tu parles à ce fût, tu entends tes propres pensées, interprétées par les souvenirs insensés d'une pauvre créature morte bien avant que nous ayons même découvert cette cité.
Il ajouta presque suppliant,
« Reine, ne laisse pas une folie mort-née parler par ta voix. Dégage-t'en !»
Reine parut hésiter un instant, puis il se raidit entêté.
« C'est assez facile de me le prouver. Aide-moi à sortir le fût à l'air et à la lumière. Si rien ne se produit, je reconnaîtrai ma sottise. »«
Ce serait un marché de dupes !»
s'exclama Bendir écœuré.
Ce fût est immense. Il faudrait araser tout le sommet de la colline, ou creuser le glissoir au-dessus de l'entrée originelle, au risque de faire écrouler la salle. Le mur au-dessus de la porte est lézardé. En admettant même qu'on puisse ouvrir la porte, toute la structure serait menacée. Reine, tu n'es pas sérieux.
Il est vivant.
Il ajouta d'un air de défi.
Et il se dit prêt à aider Malta et sa famille. Réfléchis. Pense à la puissance d'un pareil allié.
Pense à la puissance d'un pareil ennemi,
rétorqua Yanni d'un ton furieux.
Reine, nous en avons déjà parlé maintes fois. Même s'il y a un être vivant à l'intérieur de ce fût, on ne peut pas le faire sortir, et même si on le pouvait, ce serait un acte stupide. Maintenant, c'est terminé, fini. Tu comprends ? « Nous n'en parlerons plus. Je l'interdis. »
Il ouvrit la bouche. Sa mâchoire et sa lèvre inférieure frémirent comme lorsqu'il était enfant et qu'il se préparait à hurler. Mais il referma la bouche en faisant claquer ses dents. Sans un mot, il se leva et se détourna de la table.
« Nous n'en avons pas terminé, »
l'avertit Yanni.
« Moi si. Non. » « Reviens t'asseoir et dis-nous ce que tu as découvert jusqu'ici dans les parchemins. Je l'exige. »
Il se retourna vers eux. Ses yeux étaient devenus froids et sombres.
« Tu exiges ? Alors voici ce que j'exige, moi. Récompense-moi de ma peine. Si tu ne me donnes pas le dragon, alors donne-moi un peu de ton argent si précieux, mère. Parce que, d'une façon ou d'une autre, je vais aider ma bien-aimée. Je n'irai pas au bal de Terrilleville lui prendre la main, danser avec elle et la laisser aussi dénuée d'espoir et d'argent qu'avant mon arrivée. Non !»
Ce fut au tour de Bendir d'être indigné.
« Depuis quand n'es-tu plus membre de notre famille ? On doit t'acheter pour que tu fasses ton devoir ? On doit te payer pour que tu rendes un peu de ce que tu as pris ? Que je sois maudit plutôt ! Alors sois maudit !»
répondit froidement Reine.
Reine ?
Intervint Yanni qui s'efforça de modérer sa voix.
Parle net. Que souhaites-tu exactement ? Que devrions-nous te proposer pour que tu renonces à ce rêve de dragon ? Mère, je refuse ! Tais-toi, Bendir. Écoute d'abord ce qu'il demande avant de dire non.
Elle espéra qu'elle n'avait pas laissé transparaître son idée. Reine devait croire qu'il s'était engagé dans ce marché de son propre chef.
« Que réclames-tu, mon fils ?»
Reine lécha ses lèvres sèches. Il avait un air sournois maintenant qu'acculé, il devait s'exprimer à haute voix. Il s'éclaircit la gorge.
« D'abord, oubliez la dette des Vestrites. Ce n'est qu'une formalité de toute façon. » On a reconnu officiellement que cette annulation serait mon cadeau de noces à Malta. Donne-le sans attendre. C'est maintenant qu'elle en a le plus besoin.
Ne la laisse pas croire que nous allons continuer à leur soutirer de l'argent alors qu'elles sont assaillies de soucis. Ne la laisse pas craindre, et ici sa voix s'enroua, qu'elle est obligée de m'épouser pour l'argent contre son gré. Je ne veux pas l'obtenir de cette façon. Je ne veux pas qu'elle craigne de nous voir invoquer le pacte du sang.
Elle finira par t'aimer avec le temps, Reine. N'en doute pas. Beaucoup de jeunes mariés qui sont venus au désert des pluies contre leur gré ont vite appris à aimer.
Je ne veux pas l'obtenir de cette façon.
Alors nous ne mentionnerons pas cette partie du contrat, assura sa mère.
Parfait, voilà qui est réglé. On va simplement jeter le contrat aux orties.
Bon, qu'as-tu appris dans les parchemins ?
Demanda Bendir avec brusquerie d'une voix voilée par la fureur.
« Ce n'est pas tout !»
poursuivit Reyn, implacable.
« Ah, quoi encore ? Tu veux devenir gouverneur du désert des pluies ?»
fit son aîné sarcastique.
« Non, seulement maître de ma vie. Je veux être en mesure d'aller la voir quand j'en ai envie, jusqu'à ce que nous soyons mariés et qu'elle vienne ici. Je veux qu'on me verse une rente, de l'argent que je pourrais dépenser sans en rendre compte à quiconque. En bref, je veux que tu me traites en homme. Tu avais ta propre bourse quand tu étais plus jeune que je ne le suis.
Seulement parce que j'avais aussi une femme. Quand tu seras marié, tu disposeras de tes revenus. Pour l'heure, tu n'en as pas besoin. Je n'ai jamais été pingre avec toi. Mère t'a toujours favorisé par rapport à nous. Plus on te donne, plus tu réclames.
Tu peux avoir cela aussi,
intervint Yanni, impatienté.
L'expression de Bendir passa de l'incrédulité à la fureur. Il leva les mains.
« Qu'est-ce que je fais ici ? »
déclama-t-il sur un ton emphatique.
« Apparemment, je n'ai pas voix au chapitre !»«
Tu es ici pour être le garant de la parole de ton frère. Reyn, voici ce que nous t'avons demandé. Renoncer à ton rêve de dragon et t'abstenir de rendre visite à ce fût. Tu n'auras plus ton mot à dire dans ce qu'il adviendra de ce fût. Tu accompliras ton devoir envers ta famille en utilisant tes compétences comme on te le réclame. Tu ne pénétreras pas dans la cité sans notre autorisation, et ce, seulement pour le travail que nous aurons approuvé. En échange, nous annulerons le contrat de la Vivnef Vivacia. Nous t'allouerons une rente d'adulte indépendant et te permettrons d'aller rendre visite à ta bien-aimée quand tu le voudras. Acceptes-tu ces conditions ?
Elle s'était exprimée avec solennité. Elle scruta son fils qui réfléchissait comme elle le lui avait appris, examinant chaque phrase, s'appliquant à retenir les termes de l'accord. Son regard passa de sa mère à son frère. Son souffle s'accéléra. Et il se frotta les tempes comme s'il livrait bataille en son fort intérieur. Les termes du contrat étaient ardus pour les deux parties. Elle proposait beaucoup pour gagner beaucoup. Il prenait trop de temps pour répondre, il allait refuser. Alors, il déclara précipitamment, comme si les mots lui faisaient mal, « Oui, j'accepte. »
Elle laissa silencieusement échapper son souffle qu'elle avait retenu. Elle avait réussi.
Le piège se refermait derrière lui, à son insu.
Elle respira profondément pour étouffer le malaise qu'elle éprouvait à agir ainsi à l'encontre de son propre fils.
C'était nécessaire. Nécessaire et par conséquent honorable.
Reyn tiendrait sa parole. Il l'avait toujours fait et il continuerait.
Qu'était-ce donc un marchand s'il n'était pas homme de parole ?
En qualité de marchande de la famille, j'accepte cet accord. Bendir, tu es témoin ?
Oui,
acquiesça-t-il d'un ton aigre. Il évita son regard. Soupçonnait-il ce qu'elle venait de faire et en était-il écœuré ou était-il déconcerté par les termes du pacte ?
Alors laissons cela pour ce soir. Reyn, s'il te plaît. Consacre encore une journée à ces parchemins et donne-nous par écrit la meilleure traduction possible. Je t'en prie,
Présente-nous de façon détaillée les nouveaux symboles et note leur signification, mais pas ce soir. Ce soir, nous avons tous besoin de dormir.
Ah, pas moi,
rétorqua Rain avec un amusement amer.
Pas de sommeil pour moi, je le crains. Ou plutôt, je crains de dormir. Je vais commencer ce soir même, mère. Peut-être aurai-je quelque chose pour toi demain matin.
Ne te surmène pas, conseilla-t-elle, mais il rassemblait déjà les parchemins et s'en allait. Elle attendit qu'il ait franchi le seuil pour barrer le chemin à Bendir qui allait sortir à son tour.
« Attends !»
ordonna-t-elle.
« Pourquoi ? »
fit-il Mossad. « Attends que Rain soit hors de portée d'oreille !» répondit-elle sans embâge. La réponse piqua son attention. Il la regarda, interdit. Elle laissa s'écouler de longues minutes. Puis, elle prit une profonde inspiration. « Le fût dragon, Bendir, il faut nous en débarrasser, et vite, le débiter. Peut-être as-tu raison, peut-être est-il temps que la famille Ruprus possède son propre navire. Ou alors, si on le emplanche, qu'on conservera. Il faut se débarrasser de ce qu'il contient. » Autrement, j'ai peur qu'on ne perde ton frère. C'est le fût et non Malta qui est à la source de nos soucis avec Rain. Il lui ronge l'esprit. Je crains qu'il ne se noie dans les souvenirs. Il frôle déjà le précipice. Je suppose que nous devrions l'éloigner de la cité autant que possible.
Il parut préoccupé. Yanni se sentit soulagé. Il ne simulait pas. Il s'inquiétait sincèrement pour son frère. La profondeur de ses sentiments se manifesta dans ses paroles.
« Maintenant ? Tu veux dire qu'on débite le fût avant qu'il ne s'embarque pour le bal d'été à Terrilleville ? Je ne crois pas que ce soit sage, mère. Même s'il a accepté de ne plus s'en mêler, ce devrait être une période heureuse pour lui, exempte de doute. »
« Tu as raison. Oui. » « Attendons qu'il soit parti. Il va passer une ou deux semaines à Terrilleville, je pense. Fais-le à ce moment-là. Qu'il rentre pour trouver le fait accompli et irrémédiable, ce sera le mieux. »
« Il va m'en vouloir, tu le sais. »
Une ombre passa sur son visage.
« Cela ne facilitera pas nos rapports. »
« Non. » « C'est à moi qu'il en voudra, » assura sa mère. « J'y veillerai. »
La nuit était tombée sur le port. Parangon le sentait. Le vent avait tourné. À présent, il portait les odeurs de la ville à ses narines. Il leva la main pour se toucher le nez. Avec précaution, ses doigts s'aventurèrent plus haut, tâtant les éclats de bois de ses yeux détruits.
« Tu as mal ?» demanda Ambre à mi-voix.
Il laissa retomber aussitôt les mains.
« Nous ne ressentons pas la douleur comme les humains, »
affirma-t-il. Au bout d'un moment, il reprit.
« Parle-moi de la ville. Qu'est-ce que tu vois ?»«
Oh, bien !»
Il la sentit bouger sur le gaillard d'avant. Elle était allongée sur le dos, à somnoler ou à contempler les étoiles. Elle roula sur le ventre. Son corps était chaud contre son bordage.
« Tout autour de nous, c'est une forêt de mâts, des bâtons noirs sur fond d'étoiles. Certains navires ont des falots, mais pas nombreux. Alors qu'en ville, il y a beaucoup de lumière, elles se reflètent dans l'eau et...
« J'aimerais bien les voir !»
dit-il plaintivement. Puis il ajouta d'une voix plus forte.
« J'aimerais tout voir, tout. Ce n'est que ténèbres, Ambre. Être aveugle sur la plage, c'était dur, mais au bout d'un certain temps, j'ai fini par m'y habituer, mais là, dans l'eau de nouveau. Je ne sais pas qui passe près de moi sur les quais, ni quels vaisseaux viennent à couple. Le feu pourrait se déclarer sur les quais, et je ne le saurai que trop tard. Tout ça, c'est déjà dur, mais bientôt va prendre la mer. Comment veux-tu que je m'aventure dans cette immensité en étant aveugle? Je veux bien faire, vraiment. Mais je crains de ne pas pouvoir. »
Il devina dans sa voix le sentiment d'impuissance qu'elle éprouvait.
« Il va falloir que tu nous fasses confiance. Nous serons tes yeux, Parangon. Si nous courons un danger, je serai là, tout près de toi, je te le jure, et je te dirai tout ce qui se passe. »
« Piètre réconfort, »
répondit-il au bout d'un moment.
« Malheureusement, piètre réconfort. »
« Je sais. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. »
Il tendit l'oreille. Les vagues clapotaient doucement contre sa coque. Les cordages grinçaient. Des pas résonnaient sur le quai. Les bruits nocturnes de Terrilleville lui parvenaient. Il se demanda si la ville avait beaucoup changé depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois. Il contempla devant lui un avenir d'éternelles ténèbres.
« Ambre,
s'enquit-il à mi-voix,
tu as eu du mal à réparer les mains d'Ophélie. Elles étaient très abîmées. »
Les brûlures n'étaient pas très profondes, sauf à certains endroits. Le problème, c'était plutôt de respecter les proportions entre les doigts et la main.
Au lieu de tailler simplement ce qui était endommagé, j'ai dû retravailler les deux mains. Une bonne partie du bois que j'ai retiré n'était pas brûlée. Je crois que le plus dur pour elle, ça a été de rester immobile, et pour moi, de me concentrer sur mon travail tout en ayant peur de lui faire mal.
« Alors c'était douloureux ?»«
Qui sait ?»«
Elle prétendait que non. Elle aussi m'a dit que les vives nefs ne ressentent pas la douleur comme les humains. Néanmoins, je crois que cela lui était désagréable. D'après elle, elle se sentait amputée du bois que je retirais. C'est une des raisons pour lesquelles je le lui ai rendu sous forme de bijoux. Elle avait l'impression que ses mains n'allaient pas. Quand j'ai eu fini. » Ambre marqua une pause.
J'étais accablé. J'avais fait de mon mieux. Mais quand je lui ai rendu visite la dernière fois avant qu'elle prenne la mer, elle m'a dit qu'elle s'était habituée à ses nouvelles mains et qu'elles étaient parfaites. Elle voulait absolument que je lui retaille les cheveux, mais le capitaine Ténira a refusé. Il a déclaré qu'il ne pouvait rester plus longtemps au port. Pour te dire la vérité, j'en ai été soulagé. Le bois sorcier n'est pas commode à travailler. Même avec mes gants, j'ai toujours senti qu'il essayait de m'attirer à l'intérieur. »
Il entendit à peine ces derniers mots.
« Tu pourrais me couper la barbe ? »
s'exclama-t-il soudain.
« Quoi ? »
Elle se leva, alarmée, d'un unique mouvement fluide, comme un oiseau qui prend son envol.
« Parangon, que dis-tu là ? Tu pourrais me couper la barbe, la refaçonner, me refaire un nouveau visage ? Je recouvrerai la vue. »
« C'est une idée folle, »
fit Ambre d'une voix neutre.
« L'idée folle d'un navire fou. Ça marcherait, Ambre. Regarde tout le bois qu'il y a là. »
Il saisit sa barbe à pleine main.
« Il y en a bien assez pour me refaire des yeux. Tu pourrais le faire. »
« Je n'oserai jamais, »
répondit-elle platement.
« Et pourquoi pas ?»«
Que diraient Althea et Brachan ? Réparer les mains d'Ophélie, c'était une chose. Te recréer complètement un visage, c'est tout à fait autre chose. »
Et il croisa les bras. « Qu'est-ce que ça peut faire, ce que disent Althea et Brachan ? Est-ce que je leur appartiens ? Suis-je un esclave ?»«
Non, c'est seulement que... »
Il l'interrompit.
« Quand tu m'as acheté, n'as-tu pas affirmé que ce n'était qu'une formalité pour les autres ? Tu as déclaré que je m'appartenais, depuis toujours et pour toujours.
Alors il me semble que c'est à moi de décider.
Peut-être. Cela ne veut pas dire que je doive accepter.
Et pourquoi refuserais-tu? Tu veux que je reste aveugle?
Il sentait la colère frémir en lui, menaçant de déborder. Il la ravala comme de la bile. La colère n'avait pas de prix sur Ambre. Elle se contenterait de s'en aller.
Bien sûr que non. Mais je n'ai pas envie non plus que tu sois déçu. Parangon, je ne comprends pas le bois sorcier. Mes mains me disent une chose, mon cœur m'en dit une autre. Le travail sur Ophélie a été difficile pour moi. Elle m'a avoué que ses mains lui faisaient un effet bizarre. Ce que j'éprouvais, moi, était plus subtil. L'impression d'avoir commis un sacrilège.
Sa voix baissa sur le dernier mot. Il pouvait presque sentir sa confusion.
Tu l'as fait pour Ophélie, et tu ne le ferais pas pour moi?
Parangon, c'est très différent. Sur Ophélie, j'ai retiré du bois abîmé. Tu me parles de cheviller des morceaux pour te refaire des yeux. Comme je te l'ai dit, je ne comprends pas la nature du bois sorcier. Est-ce que ces pièces chevillées deviendront vivantes comme toi, ou resteront-elles des copeaux de bois morts?
Alors, fais comme tu as fait pour elle,
tonna Parangon après un silence exaspéré.
Enlève-moi mon visage défiguré et refais-m'en à nouveau.
Ambre murmura quelques mots dans une langue inconnue. Parangon ne savait pas si elle priait ou si elle jurait. Il sentit seulement l'horreur qu'elle éprouvait à cette idée.
« Sais-tu pourquoi tu plaides? Je vais devoir te refaçonner entièrement le visage, peut-être même le corps, pour respecter les proportions. Je n'ai jamais entrepris un travail aussi considérable. Je suis sculpteur sur bois, Parangon, pas sculpteur tout court. »
Elle étouffa un soupir de dégoût.
« Je pourrais t'abîmer, détruire ta beauté à jamais. Et comment je vivrai avec ça ?»
Parangon porta les mains à sa figure et planta les doigts dans ses yeux ravagés. Il se mit à rire, d'un rire impudent, amer.
« Ambre, je préfère être laid qu'aveugle. Aujourd'hui, je suis les deux. Comment cela pourrait-il être pire ?»«
Je n'ai aucune envie, justement, de connaître la réponse à cette question, »
répliqua-t-elle habilement, et elle ajouta à contre-cœur,
« Mais je sais que je vais y réfléchir. Laisse-moi du temps, Parangon. Laisse-toi aussi le temps de bien y réfléchir. »
« C'est tout ce que j'ai, moi, »
fit-il remarquer.
« Du temps et à revendre. »